Vermeer n'invente aucun des sujets qu'il traite. Il reprend, il réélabore des données absolument communes de la peinture hollandaise. Et Vermeer est effectivement, il faut le dire, un peintre hollandais. Hein, il est banalement hollandais, apparemment. Simplement, la manière dont dans chacun de ses tableaux, il pratique la peinture hollandaise est tout à fait originale. Il réélabore systématiquement un nombre de données qui deviennent de plus en plus restreintes. Et c'est ça qui m'a fasciné parce que j'ai vu des constantes commencer à apparaître et je me suis dit que donc c'était avant toute hypothèse théorique, philosophique, politique, religieuse, esthétique, commencer par tout simplement regarder ces tableaux et avec des éléments extrêmement simples, essayer de voir s'il n'y avait pas des retours de structure qui venaient. Si m'a mis la puce à l'oreille, c'est une phrase de Merleau-Ponty qui parle justement de structure Vermeer avec cette infime déviation qui revient régulièrement. Et dans le fond, mon travail était comment est-ce qu'un historien qui s'occupe forcément des ressemblances, des continuités du général, etc., comment peut-il essayer de rendre compte du génie, c'est-à-dire du singulier, du différent de l'artiste profondément individuellement. Alors, soit il va faire la psychologie de cet artiste, et à ce moment-là, bon, c'est l'historien qui va projeter sa propre psychologie dans le peintre dont il s'occupe. Soit, beaucoup plus modestement au départ, il va tenter de repérer le plus possible les données communes de l'époque et de voir où il y a déviance, même légère. Et effectivement, Vermeer dévie. Il dévie sur des choses très précises et qui ne m'appartiennent qu'à lui et qui m'ont beaucoup intéressé.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Daniel Arras, qui publia en 1993 un livre passionnant sur Vermeer, nous aide intelligemment à comprendre le trouble indéfinissable qui nous saisit devant les peintures du maître de Delft. Tout ce qu'il peint est pourtant, on ne peut plus banal, une servante verse du lait dans une jatte, une jeune femme devant son miroir, noue les rubans de son collier de perles, une autre à une table rédige une lettre. Rien, vraiment rien, qui puisse expliquer en apparence l'attraction douce et violente qui nous immobilise dans une lente et rêveuse contemplation. Nous nous sentons comme appelés dans la scène qui prend vie sous nos yeux et alors, soudain, la magie opère. Nous voyons la lumière cristalline qui sublime les chairs et les soieries, nous entendons vraiment le silence méditatif qui enveloppe les personnages, plongés dans des pensées que nul indice grossier ne nous révèle. Nous entrons doucement dans un mystère où notre rêverie seule va nous guider. Vermeer est un ensorceleur. Depuis quelques semaines, on peut admirer au Louvre 12 parmi les 37 toiles répertoriées de Johannes Vermeer, une occasion qui ne s'était pas présentée à Paris depuis l'exposition de 1966 à l'Orangerie. Elles sont installées côte à côte avec une soixantaine d'œuvres de ses contemporains, Gerhard Terborch, Gabriel Metsu ou Frans van Mieris, autres maîtres hollandais de la peinture de genre. Accrochage passionnant qui permet de retrouver les thèmes récurrents, les emprunts des uns aux autres, les imitations et les réponses. Mais en dépit des merveilles que l'on y découvre, signées Jan Steen, Nicolas Maes ou Peter de Hoek, la peinture de Vermeer domine par son scintillement mystérieux tous les autres. Vermeer et les maîtres de la peinture de genre est à voir jusqu'au 22 mai au Louvre, du moins si vous parvenez à vous faufiler dans ces salles qui connaissent un afflux historique. Blaise Ducose, qui est le commissaire de cette sublime exposition, est toujours aujourd'hui, l'invité de l'humeur vagabonde.
Shadows pass my window, dark and lonely memories of a fire become an ember, gray December. Listen, can't you hear it? Sighs and listless tread, shapeless dreams I try hard to remember, gray December. Couldn't you play the role lovers do and stay just for this moment. But love wasn't meant for sorrow and lament, so I'll do my dreaming alone. Softly now I see them, lovers' arms entwined, shadows of a love I can't remember, now an ember, gray December. Can't remember now an ember, gray December.
Bonjour Blaise Ducos.
Bonjour et merci de votre invitation.
12 toiles de Vermeer au Louvre, c'est un événement puisque, je le disais en commençant, on n'a que 37 toiles officialisées du peintre de Delft. Est-ce que ça veut dire que cet homme, par rapport à ses contemporains qui peignaient des centaines de tableaux, est-ce que ça veut dire qu'il travaillait très lentement, ou est-ce que ça veut dire que ces immenses étendues de silence sur la peinture de Vermeer, puisqu'on ne l'a redécouvert en gros qu'au XIXe siècle, est-ce que on en a perdu? Est-ce qu'on a perdu des chefs-d'œuvre? On ne sait pas, au fond. On ne sait pas grand-chose de lui.
Alors, c'est même encore plus redoutable que ce que vous dites, puisque certains spécialistes parlent de 36. Donc, déjà, le chiffre 37 paraît démesuré. Est-ce qu'il était très lent? Bon, sans doute. La réponse, c'est presque en homme de marché qu'il faut la formuler. Ça peut étonner, mais c'est ainsi que les choses fonctionnent. On pense aujourd'hui assez vraisemblablement que Vermeer avait, dans sa ville de Delft, un couple de collectionneurs, des commanditaires, auprès de qui il jouissait d'une espèce de droit de premier refus, une sorte d'exclusivité, et qui, pour ainsi dire, ont canalisé son œuvre, et qui d'ailleurs, d'après les sources, les archives anciennes, ont possédé jusqu'à 21 tableaux de Vermeer. C'est considérable. Et donc cette certitude, pour ainsi dire, d'un débouché, à favoriser cette lenteur, cette respiration. La minutie n'exclut pas la production et même la prolixité, puisqu'il y a un autre artiste dans l'exposition qui s'appelle Gérard Doux, D.O.U., qui a été un des grands favoris des rois de France dans l'histoire de notre pays. Il y a eu beaucoup de collections qui comportaient en France des Gérard Doux. Alors lui, il était ultra lent, il était connu pour travailler avec 3 paires de lunettes simultanément, et ou successivement, peut-être plus raisonnablement, et à s'attarder sur d'infinis détails pendant des jours. Et alors lui, il produisait plusieurs centaines de tableaux par an. Donc c'est une autre allure, une autre façon de voir les choses.
Mais
alors,
pourtant,
est-ce qu'on a perdu des œuvres?
Ben oui, on sait en tout cas, Blaise Ducos, que la cote, si on peut parler de cote, à l'époque de Vermeer, était moins élevée que celle de ses contemporains que l'on voit dans cette exposition, qui vendait très cher. Lui n'a jamais tellement roulé sur l'or. Il a connu des années confortables, et puis on sait, il est mort dans la plus grande misère.
Oui, alors c'est un parcours très différent de celui de Rembrandt, par exemple, pour lequel les difficultés se sont amoncelées assez rapidement après une période très heureuse. Lui, il y a une espèce de trajectoire heureuse de développement. Et puis ensuite, il faut le dire, la France, en tout cas Louis XIV, a pour ainsi parler tué, assassiné Vermeer. C'est bien le thème de la Galerie des Glaces que celui de la guerre de Hollande, la guerre faite à la Hollande, avec le roi qui se prépare à faire la guerre, le roi qui fait la guerre, le roi qui remporte la guerre. Donc c'est dire l'importance de cette affaire pour les Français à l'époque. Et en fait, cette guerre a siphonné le marché de luxe, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit, dont Vermeer était l'un des grands acteurs. Il n'y avait plus de débouchés, plus de clientèle. Hein. L'économie de luxe est la première à s'effondrer en cas de guerre. Et il a fini sa vie dans le dénuement total.
C'est une exposition tout à fait passionnante. Évidemment, 12 tableaux ne font pas une exposition. Donc là, il y a les Vermeer et une soixantaine d'œuvres de ses contemporains. Et c'est tout à fait passionnant, notamment dès les premiers pas dans cette exposition, parce qu'on se retrouve devant deux petits tableaux qui sont tout à fait contemporains. On dit 1664. Il y a la peseuse d'or de Peter de Hoek et il y a la femme à la balance. Avant d'en parler, on va écouter Jean Clerc parler de cette femme à la balance.
La peseuse de perles de Vermeer, c'est un tableau qui, à première vue, est l'incarnation même de l'intimité la plus rassurante. Quoi de plus intime, de plus proche, de plus familier qu'une femme vue de profit dans un intérieur, au soleil couchant, en train de peser des perles dans une petite balance de pharmacien. En fait, le tableau retient par une dose de mystère. À partir du moment où on s'aperçoit que la femme est enceinte, elle est gravide, et on ne peut pas s'empêcher d'établir un lien entre le fait qu'elle a commerce avec des perles, qui sont des symboles liés à la naissance, et au fait d'être gravide. Sainte Marguerite présidait aux accouchements. Et puis aussi le fait que l'un des colliers de perles qui est sur la table est rompu, c'est-à-dire que non seulement cette femme impressionnante préside à la vie, c'est elle qui met au jour, et la lumière du jour pénètre par la fenêtre et est reflétée dans un miroir, mais elle semble aussi avoir le pouvoir de mettre fin au jour. Elle est aussi la parque qui coupe le fil. Et le tableau est exactement composé sur ce délicat équilibre entre le jour et la nuit, entre la naissance et la mort. Et juste au milieu du tableau, il y a cette petite balance qui, en fait, ne pèse rien, parce qu'il n'y a rien sur les plateaux de la balance. C'est en fait un jugement dernier, et ce qu'elle est en train de peser, c'est le destin même de l'homme, du petit homme qu'elle a dans son ventre.
Blaise Ducos, on sent bien l'émotion que Jean Clerc exprime, qui est celle des visiteurs de cette exposition, parce que ces deux tableaux, ils nous saisissent, ils sont tous les deux magnifiques, celui de Peter de Hoek comme celui de Vermeer, mais celui de Peter de Hoek, il nous montre réellement la scène, c'est une femme qui pèse de l'or dans une petite balance, les couleurs sont chaudes, c'est la vie, elle fait un geste, elle fait quelque chose et on comprend. Tandis que le tableau de Vermeer qui reprend le même profil, le même geste, il nous plonge dans une sorte de rêverie, mais grave, parce qu'effectivement, comme le dit Jean Clerc, on comprend très vite qu'il s'agit d'autre chose que d'un geste banal.
Oui, alors il y a mille choses dans cette citation extrêmement riche de Jean Clerc. Certaines choses qui correspondent à de grandes interprétations, à une grande tradition par rapport à la manière de regarder ce tableau. Bon, c'est vrai qu'on sent tout de suite l'onirisme, le lyrisme même qui s'empare du commentateur. Et il y a certaines choses qui aujourd'hui, je peux le dire parce que je m'appuie sur toute la préparation de cette exposition, ont été revues ou révisées, revisitées. Notamment cette histoire de gravidité, le fait que la jeune femme serait enceinte dans le tableau de Vermeer de Washington. En fait, n'a rien d'une évidence.
Elle a quand même un petit ventre bien rond.
Tout à fait. Le bourrelet au niveau de sa taille est très sensible. C'est l'histoire du costume qui explique la chose, essentiellement. J'ai eu de grandes discussions avec des historiens du costume à ce sujet, qui m'ont expliqué la façon dont les costumes, les vêtements se portaient à l'époque, en particulier chez les jeunes filles de l'élite, puisque c'est de cela qu'elle s'agit. Hein. On est dans une atmosphère hautement luxueuse qui correspond au 1% du 1%. Et donc, il est très peu probable, en réalité, que cette femme est enceinte. Donc, Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on a placé ces deux tableaux à l'entrée de l'exposition parce que j'ai presque envie de dire que le mot le plus important du titre, Vermeer et les maîtres de la peinture de genre, c'est la conjonction de coordination et le lien entre les uns et les autres. Et c'est vrai que ces deux tableaux, on les a mis là, puisque, presque comme les trois coups au théâtre avant le lever du rideau, pour que les gens aient les questions qui se posent dans le dossier que nous leur proposons, tout de suite sous les yeux. On ne peut pas, je crois, ne pas se dire en voyant les deux œuvres, c'est pas possible, ils devaient se connaître. Ils devaient avoir vu l'un de l'autre, le tableau. Il devait y avoir quelque chose. Et alors ensuite, vous tirez le fil. Généralement, ce Dehors, avec sa peseuse de pièces d'or, la peseuse d'or, est vu comme un épigone, un suiveur, quelqu'un qui, oui, un satellite, qui travaille aussi à Delft, de Vermeer. Mais là, les choses sont plus compliquées, parce que ce Dehors a déménagé, il est à Amsterdam, et en l'occurrence, dans la séquence « Œuf et poule », c'est plutôt Vermeer qui vient après et qui approfondit, qui transforme, qui métamorphose. Voilà, ça c'est le mot, le grand mot, le mot clé pour Vermeer, pour caractériser sa contribution, la métamorphose, qui métamorphose le prosaïsme initial de Dehors.
Mais vous, Blaise Ducos, vous rejetez le terme même d'influence. Et ce serait absurde, puisqu'on manque de documentation, de rechercher les influences. Est-ce qu'on peut dire quand même que Vermeer, par rapport à l'âge de certains de ces peintres qui sont exposés dans l'exposition du Louvre, pourrait avoir effectivement avoir été inspiré par Terborch, par exemple?
Alors, le fait est que le mot influence, à dire vrai, je ne le rejette pas en tant que tel. Il est commode, il est utile, mais il est très large. Le problème, c'est plus que sa largeur ou sa largesse, dans tous les sens du terme, nous fait nous perdre dans l'univers des possibles. L'exposition essaye de dresser le répertoire des relations entre les artistes. L'hommage, la citation détournée, le plagiat assumé, le masque, la surenchère aussi, l'agacement souverain. Vermeer est très agacé, je pense, par certains artistes, notamment par Gérard Doux, qui l'horripile, je pense. Et donc voilà, donc le terme influence, en réalité, tout ce que j'essaye à l'instant de mentionner, ce sont des influences. Mais voyez, on peut rentrer et du coup faire le registre, le répertoire de ces influences et préciser, raffiner ou affiner les choses et de la sorte comprendre mieux la contribution de Vermeer et des autres.
Parce qu'en fait, il y avait pour tous ces peintres, ces maîtres de la peinture de genre, un peu des thèmes imposés, puisqu'ils se démarquaient de la peinture précédente qui était inspirée évidemment de la mythologie ou des scènes de la Bible. Et là, ce sont des scènes de la vie quotidienne qui, à l'époque, sont très en vogue. Il y a une demande pour ça. Donc, qui dit scène de la vie quotidienne, c'est l'intérieur. Donc, les jeunes femmes qui se livrent à un certain nombre d'occupations, soit les servantes, soit les maîtresses, les lectures de lettres, les broderies. Mais il y a quand même, et on le voit dans cette exposition, une différence d'approche de Vermeer par rapport aux autres. Et là, on peut mettre les autres un peu dans le même sac. Parce qu'il nous montre des scènes et on sait ce que c'est. Et quand il y a un peu des allusions amoureuses ou grivoises, on les voit. Chez Vermeer, les thèmes sont les mêmes, mais il est complètement à l'opposé. Il ne nous raconte pas, il nous laisse imaginer.
Oui. Il est ailleurs, et c'est vrai qu'en fait, ce que vous évoquez, c'est la distanciation vermeerienne. C'est ce silence, cette façon qu'ont tous les visiteurs de baisser la voix devant les tableaux, alors qu'on ne leur dit même pas de le faire. C'est vrai qu'il y a un silence, il y a un recueillement devant les tableaux de Vermeer. Ensuite, les motifs, les thèmes, ce que le tableau représente vraiment, n'est pas anodin. Simplement, il y a une abstraction chez Vermeer qui est très importante.
Alors, on va écouter Tsvetan Todorov, qui nous a quittés le mois dernier, qui était un amoureux fou de cette peinture hollandaise. Et il parle du tableau de Vermeer, la lettre, est-ce une lettre d'amour?
Quelque chose dans la peinture de Vermeer dépasse les tableaux de genre, le tableau du quotidien. Vermeer partage avec les autres peintres de son temps les mêmes sujets, la lettre, le gentilhomme, ou la maison de passe aussi, les rencontres hommes-femmes, mais il ne se contente pas de nous montrer cette anecdote et ce qu'elle révèle, c'est-à-dire de nous adresser, par exemple, une leçon de morale, ce qui est souvent le cas. Chez Vermeer, il y a comme un éloge de la peinture qui se superpose à cette suggestion d'un moment particulier dans la vie de cette femme. Vermeer peignait très lentement, on le sait, il a laissé très peu de tableaux comparés à d'autres, et il y a dans la construction même de ce tableau une sorte de mystère. Donc je trouve qu'avec Vermeer, on entre dans une intemporalité.
Blaise Ducos, Tsvetan Todorov dit mystère, de mystère à mysticisme, il n'y a pas tellement loin. Vous dites, les visiteurs baissent la voix, il y a quelque chose qui passe. Alors, bon, les commentateurs ont dit, le peintre de la lumière c'est quoi? C'est la spiritualité, c'est Dieu, c'est... Au fond, on peut y voir ce qu'on y apporte, chacun est libre, mais il y a... On sait qu'il s'est converti au catholicisme, alors est-ce que c'était...
Très jeune.
Très jeune, est-ce que c'était justement parce qu'il fallait pouvoir...
Se marier.
Se marier, mais peindre des images aussi.
Se marier. Non, là, vraiment, c'est une circonstance à la fois amoureuse et sociale qui a déterminé ce changement de confession quand il avait une vingtaine d'années. En l'occurrence, ce que dit Todorov sur cette peinture du quotidien qui est dépassée par Vermeer, c'est vrai. Mais au fond, aucun des artistes de l'exposition, tous ces peintres de genre ne fait vraiment du strict quotidien. Tout est réagencé, recomposé, réorchestré. Et j'en veux pour preuve des accessoires totalement impossibles. Par exemple, il y a plusieurs fois un lustre, un beau lustre dans ses intérieurs. On sait que ces lustres n'existaient pas dans les intérieurs hollandais. Et en l'occurrence, ce lustre est parfaitement réel. Il vient de l'hôtel de ville d'Amsterdam. C'est un immense lustre qui était dans ce lieu public, le contraire de l'intimité dont on nous parle pour ces tableaux. Donc en l'occurrence, ils sont au croisement de plusieurs domaines, et ce sont vraiment des constructions sociales à destination d'une classe sociale qui veut projeter d'elle-même une image de raffinement, un art de vivre, la nouvelle élite hollandaise face au monde des monarchies européennes.
Et en même temps, ils ont donc des scènes de genre un peu codifiées, des rituels pour peindre, mais ça n'explique pas, malgré tout, Blaise Ducos, la différence d'approche. Vermeer est seul à approcher ces scènes d'une manière, j'allais dire, silencieuse.
Oui, alors... La solitude de Vermeer, moi, je suis toujours très très prudent, parce qu'au fond, notre exposition, elle présente une tentative pour montrer qu'il n'était pas si seul. Beaucoup des choses qu'on lui attribue en propre, comme la quintessence de son art, de son approche, le silence, la distanciation, en réalité se trouvent déjà chez cet autre génie qu'est Gérard Terborch, qui se trouve la plupart du temps au début de la séquence, lorsque nous avons réuni des séquences, des groupements d'œuvres qui s'enchaînent les unes avec les autres. Et c'est cette modernité qui est déjà en germe chez Terborch. Le thème de modernité n'est pas galvaudé ou comme ça une commodité de langage, c'est un terme d'époque. Et la peinture de Vermeer, mais la peinture de toute l'exposition, Steen, Terborch, Netscher, enfin tous ces petits génies, tous ces petits maîtres qui en réalité sont des petits génies, faisait de la peinture moderne. C'est-à-dire, on n'y avait pas ce grand vocabulaire traditionnel de la peinture d'histoire, la mythologie, la religion.
Thank you.
Encore une fois, Vermeer n'invente pas un dispositif. Simplement, en combinant murs fermés, fenêtres n'ayant pas de vue vers l'extérieur et clôture de l'espace entre le spectateur et la figure représentée, j'ai fait l'hypothèse, en fait, que ce qu'il peignait dans les scènes intérieures, c'était le dedans d'un dedans. Non pas seulement le dedans par rapport à l'extérieur, l'intérieur par rapport à l'extérieur, mais l'intérieur de l'intérieur. Et à ce moment, évidemment, j'avais une belle piste d'interprétation, parce que le dedans du dedans, eh bien, on peut le dire si on dit que la peinture hollandaise est la peinture du monde privé, hein, ce qu'on dit très volontiers, c'est très juste, eh bien, le dedans du dedans, c'est la peinture de l'intimité dans le privé. Et à ce moment, je sentais que j'avais une piste qui m'intéressait par rapport, justement, au mystère Vermeer, entre guillemets, parce que l'intimité, on le sait bien, ne se donne même pas dans le privé. Et que donc, c'est à partir du moment où Vermeer choisissait, enfin, avait comme ambition, à l'intérieur de la peinture hollandaise, d'installer l'intimité visible, inaccessible au sein de la sphère privée, bien sûr, le mystère même de l'intimité était le contenu de ces tableaux.
Blaise Ducos, je vous voyais hocher la tête. Ah bon, alors il faut dire que Daniel Arras est tellement intelligent et tellement passionné par son sujet qu'on a envie d'adhérer absolument. C'est vrai aussi que dans le silence absolu que nous a laissé Vermeer sur ses sources, sur la manière de prendre sa peinture, on peut chacun y mettre ce qu'on a envie d'y mettre. Alors, et vous, qui mettez-vous ? Est-ce que vous voyez là aussi, comme le dit Arras, le dedans du dedans, ce qui est une très jolie formule ?
Oui, c'est une jolie formule, un salto arrière assez remarquable. Moi, ce que j'y vois, c'est surtout une prise de position par rapport aux autres peintres. Peut-être est-ce ce qui n'est pas mentionné dans la citation que nous venons d'entendre. C'est-à-dire ce jeu d'écho permanent, ce jeu de renvoi, de rejet, ou au contraire, presque d'emprunt, d'absorption, d'infusion, qui est caractéristique de Vermeer. Vermeer, moi je l'appelle, on peut l'appeler éventuellement, on peut se lancer, le grand percolateur. C'est quelqu'un qui sans cesse médite, fait son miel, voilà, le temps, le silence, et puis ça sort. Et qu'est-ce qui sort ? Quelque chose qui est incompréhensible et impossible sans les autres, parce qu'il est généralement en fin de séquence ou dans le dernier moment, le dernier acte de la séquence en question, et qui est totalement différent. C'est aussi le grand écarisseur. C'est quelqu'un qui enlève, qui épure, qui évacue, qui élimine, qui rejette, qui simplifie et qui structure. Simplement parce que Van de Miris et Gérardou empilent, accumulent, sans hiérarchiser. Et ça l'agace. Et donc, lui, il réagit. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre in abstracto les tableaux de Vermeer et les considérer dans leur bulle. Et ils vont se donner avec toute leur beauté. Et c'est vrai que la génuflexion vient assez vite. Bon. Mais en même temps, sans leur ôter quoi que ce soit, me semble-t-il, on peut mieux comprendre leurs ressorts, leurs tenants et aboutissants, ce qui a motivé leur mise en place, et du coup la saveur propre du résultat, en fonction des autres tableaux, des autres artistes.
Alors, ce qu'il y a par rapport aux autres artistes, Blaise Ducos, c'est la façon dont Vermeer structure son tableau, c'est-à-dire avec toujours au premier plan un meuble, une étoffe, un bout de rideau, quelque chose qui n'a rien à faire là, mais qui est là comme pour nous dire ne rentrez pas. Moi, c'est comme ça que je le ressens.
Alors oui, effectivement, il y a comme ça des premiers plans impossibles qui vous tiennent à distance, qui sont des barrières délicates et infranchissables, mais qui sont aussi des réflexions sur la manière de peindre elle-même. Je m'explique, notamment ce premier plan. Prenez par exemple le tableau de Berlin, la jeune fille rattachant son collier de perles, avec ce minuscule miroir au mur, et puis ce geste infiniment gracieux où elle rattache les cordons, les rubans, puisqu'il n'y avait pas de fermoir au collier à l'époque, qui lui permettrait ensuite de faire tenir son rang de perles. Bon, au premier plan, vous avez des vêtements comme ça, une espèce d'amoncellement sombre, bleu sombre. C'est une réaction artistique à un tableau qui, dans l'exposition, est présenté juste à côté, devant de Miris, où au premier plan, vous avez une merveilleuse, une démonstrative veste, gilet, rouge, mais d'un rouge orangé qui claque, qui écrase, qui saille, qui sort de l'image. Voilà, ça vous saute au visage. Et donc l'idée, c'était de montrer ou bien qu'on sortait du tableau au premier plan, et c'est comme ça que ça fonctionnait, qu'on creusait l'espace, qu'on créait le réalisme, et Vermeer répond disant, ou bien non, on peut prendre la couleur bleue et le sombre, et ça va fonctionner aussi.
Ce qui nous arrête, nous aussi, sur la rêverie, c'est que les autres peintres traitent d'hommes, de femmes, on voit bien qu'ils parlent, on voit bien qu'ils font quelque chose. Les femmes et les hommes, puisqu'il y a deux hommes peints dans cette exposition, l'astronome notamment, ils sont eux aussi suspendus, ils rêvent, ils s'arrêtent, ils ne vont pas au bout de leurs gestes. Donc, est-ce qu'on peut concevoir que ça nous dit quelque chose ?
Alors, l'impression de temps suspendu, c'est l'une des contributions de Vermeer, qui a beaucoup réfléchi au temps. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours de la lumière et de l'espace, mais c'est aussi un peintre du temps suspendu. C'est un peintre aussi de l'impromptu, de l'instantané. Ce qui peut surprendre peut-être, puisqu'on a toujours l'idée de ce temps étiré. Mais en l'occurrence, il y a des tableaux aussi où il y a de l'impromptu, du rapide et de la surprise. Alors ensuite, est-ce que ça nous dit quelque chose ? Oui. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que en tout début d'émission, nous avions une citation de Daniel Arras qui disait l'impossibilité d'établir une psychologie vermeerienne en raison du risque qu'il y aurait pour l'historien de l'art à projeter sa propre psychologie rétrospectivement sur l'époque ancienne. Mais je crois qu'on peut quand même tenter une psychologie vermeerienne. Psychologie du recueillement, de la pudeur, de la dignité, de la grâce, du silence, du retour sur soi, qui n'est pas psychologisant, c'est une psychologie du recueillement.
Alors il y a bien sûr les totems de Vermeer qu'on connaît, il y a bien sûr le prêt de la laitière pour cette exposition, et puis il y a notre petite dentelière du Louvre, et Daniel Arras l'aime énormément.
Tous les tableaux de Vermeer sont construits au point de la perspective de la même façon. C'est-à-dire la ligne d'horizon, c'est-à-dire la ligne d'horizon géométrique qui correspond à l'œil, à notre œil à nous de spectateur, est extrêmement proche du niveau de l'œil des figures peintes. Mais il est toujours un petit peu plus bas. Donc nous sommes au plus près du regard de la figure peinte, mais nous sommes décalés, très légèrement décalés par rapport à cette figure peinte, et donc nous sommes tout près sans regard, mais nous ne partageons pas le regard de la figure. Le meilleur exemple, en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est justement la dentelière. La dentelière, eh bien, il y a un point extrêmement précis dans la dentelière, c'est le fil. Le fil dentelière est d'une précision, d'une finesse extrême. Mais c'est le seul point précis. Tout le reste est flou, en particulier le premier plan est complètement flou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous regardons comme la dentelière, le fil, nous regardons ce que regarde la dentelière, mais comme notre regard, par ailleurs, est plus bas que le sien, nous ne voyons pas ce qu'elle fait. Hein, ce qu'elle fait nous échappe, vous ne verrez jamais la dentelle qu'est en train de faire la dentelière. Or ça, c'est exceptionnel, parce que quand on peint une dentelière en Hollande du 7e siècle, c'est pour montrer la dentelle, et chez Vermeer, on ne la verra jamais. Donc nous sommes au plus près de son regard, de son intimité, de ce qu'elle fait, mais elle nous échappe. Ça échappe absolument. Et c'est là, à mon avis, que se trouve le ressort du mystère Vermeer. Hein, ce mystère, en fait, il est d'abord construit comme un secret. Je reste un secret délibérément construit par le peintre, un secret du personnage dont nous sommes, secret, nous sommes les destinataires exclus, et dont le dépositaire est le tableau.
Alors là, sur le secret, vous êtes d'accord, Blaise Ducos ?
Oui. Non, mais en l'occurrence, le peintre du secret, c'est la grande affaire de Vermeer. Hein. Mais son secret, il a des clés. Il existe. Il y a un secret Vermeer, mais il faut s'entendre. Ce n'est pas le secret d'un artiste travaillant dans sa mansarde, ayant des fulgurances isolées, mais géniales. Ça, c'est le sphinx de Delft. Qui en fait n'existe pas réellement, puisque on l'a compris, tout est connecté, tout est dialogue, tout est en réseau d'une ville à l'autre à l'échelle même du pays. Et c'est vrai que ce réseau, il permet ensuite à Vermeer d'être au courant de ce que les autres font, il réagit. Et sa contribution, c'était effectivement la construction de ce secret. Et il y a un mot très très utile là. Ça nous échappe. Et c'est vrai que c'est ce regard caméra qui n'aura jamais lieu. Hein, elle ne lèvera jamais les yeux. Donc, c'est évidemment ce fil, on ne le verra pas. Mais tout est construit comme ça. Le regard qui ne se relève jamais, les fils que l'on ne voit pas, le tiroir qui ne s'ouvre pas. Mais d'ailleurs, on ne distingue pas très bien qu'il y a un tiroir dans le tableau de la dentelière. Bon, tout est comme ça. Et évidemment la laitière du Rijksmuseum d'Amsterdam qui nous est prêtée de façon tout à fait exceptionnelle et à Paris seulement, vraiment c'est le même fonctionnement.
Et puis, il y a le fait aussi que Vermeer a peint essentiellement des scènes d'intérieur. Il y a deux tableaux que l'on connaît d'extérieur, le fameux petit pan de mur jaune. Et puis là, il y a la ruelle, qui est un tableau très touchant et alors très mystérieux, parce que il est vraiment différent de ce que fait Vermeer. Il est pris de loin, il y a des enfants, il y a une ruelle. C'est un petit tableau très mystérieux.
Alors, je me précipite pour dire que ce tableau n'est pas dans l'exposition.
Ah, j'ai eu l'impression de le voir.
Ah, c'est diabolique.
Eh ben, c'est diabolique, je l'ai vu dans le, dans le catalogue.
Non, à titre de comparaison, oui. Il est mentionné, effectivement. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette ruelle, on est toujours en train d'essayer de trouver de quelle ruelle il s'agit. Donc, de trouver la clé qui va faire ouvrir le mécanisme, la boîte à secrets. Et donc, il y a des enquêtes infinies sur le cadastre des Delftois au XVIIe siècle, qui aurait livré peut-être l'endroit où le canal passait, etc. Donc il y a une exposition d'ailleurs qui s'est tenue rien que sur ça récemment au Rijksmuseum à Amsterdam. Donc le secret de Vermeer, sa façon dont ça nous échappe, oui c'est vrai que c'est la quintessence de l'art.
Mais c'est ce qui fait le bonheur des visiteurs d'une exposition.
She loves me. 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 She loves
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
Blaise Ducos, on s'en est rendu compte en écoutant notre discussion. En tout cas, Vermeer est un peintre qui fait penser, qui laisse penser. C'est pour ça sans doute que c'était le peintre préféré des écrivains, en tout cas Proust évidemment au premier rang, mais beaucoup d'autres, par exemple Gaël Josse, avec qui Elsa Denac est allée visiter cette belle exposition. Bonjour Elsa.
Bonjour. Alors Gaël Josse, elle en parle dans un livre qui vient de paraître, Entre deux songes. Dedans, elle entre dans la toile La jeune fille assoupie, qui se trouve à New York et pas au Louvre, et elle cherche à déchiffrer les liens qui se nouent entre une œuvre et celui qui la reçoit. Elle écrit « Sait-on jamais ce qui va nous parler, nous saisir, nous happer dans un tableau ?» C'est le plus souvent à notre corps défendant que nous nous trouvons touchés, au propre comme au figuré, parce qu'un artiste a fait naître un jour dans le secret de son atelier. C'est cette part d'impalpable qui nous met en face d'une partie de nous-mêmes, sans résistance possible, pour des raisons parfois obscures, jusqu'à ce que nous comprenions ce que le tableau tente de nous dire. On va donc écouter ce que les toiles de Vermeer ont à nous dire, au Louvre, en compagnie de Gaël Josse.
Lorsque j'étais étudiante à Paris, il y avait ce fameux premier dimanche du mois qui était gratuit. Et j'en profitais pour aller à mon rendez-vous mensuel ou presque, pour aller voir la dentelière. Et puis après, j'ai pisté les Vermeer un petit peu partout où j'ai pu. Devant nous, on a cette fameuse femme à la balance. On va s'approcher. Quand on le regarde de près, cette femme qui est enceinte avec sa riche robe bordée d'hermine, elle tient une microscopique, une minuscule balance à la main. Et il y a des perles, des bijoux étalés sur la table. Ce tableau, il est fabuleux parce qu'il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque à ce tableau ? Justement, il manque quelque chose dans les plateaux de la balance.
Elle ne pèse rien.
Elle ne pèse rien.
C'est le temps suspendu.
Elle pèse l'air, voilà. C'est du temps suspendu qu'elle a entre les doigts. Alors tout de suite, on sort de l'anecdote. On n'est plus dans la scène de genre. Et tout de suite, ça prend une dimension symbolique, métaphorique, complètement universelle. Qu'est-ce qu'elle pèse ? Peser des âmes, peser de la vie, peser de nos actes. On peut y projeter beaucoup de choses, en fait. Et c'est ça, peut-être, qui fait cette différence avec les scènes de talent qui sont peintes par d'autres maîtres. Et puis à un moment, avec Vermeer, il se passe autre chose. On peut y projeter finalement tous nos désirs, nos rêves, nos fantasmes, nos préoccupations, nos obsessions. Il faut se laisser porter. Là, on est devant cinq tableaux qui traitent un petit peu la même chose. C'est le thème de la lettre. Il se passe plein de choses dans ce tableau. On a une jeune femme, visiblement d'un riche milieu social, en train d'écrire avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration sa lettre. Et derrière elle, elle a sa servante qui est debout et qui surveille du coin de l'œil par la fenêtre. Alors c'est très amusant parce que au-delà des conditions sociales de ces deux femmes, la maîtresse et la servante, on sent qu'il y a une complicité et que c'est la servante qui la protège, en fait, qui surveille. Alors, est-ce qu'elle guette l'arrivée d'un mari, d'un amant ou d'un visiteur inopportun ? Donc, on va s'approcher de nous. Devant le riche tapis de la table, il y a une lettre froissée. Alors, est-ce que c'est une lettre qu'elle a reçue ? Qu'elle a jeté de dépit, de colère, ou bien est-ce qu'elle réécrit sa lettre en disant « Non, je ne peux pas dire ça, il faut que je le dise autrement. » C'est très amusant parce qu'on peut vraiment faire notre histoire avec son histoire. Alors là, on suit, apparemment, c'est la même jeune femme, c'est la jeune fille au collier de perles. On est devant cette jeune femme qui tient un collier de perles autour de son cou, qui le soulève légèrement. On voit très délicatement ses mains qui se détachent sur le fond gris. Elle a une sorte de fleur dans les cheveux et elle se regarde dans le miroir. Miroir, dis-moi, suis-je la plus belle ? Le premier plan est encombré, il y a un amas de tissus sur la table. Voilà, ben oui, il y a une robe sur la table, et ben il y a une robe sur la table. Et on ne va pas tout changer parce que le peintre est là. on a d'autres scènes de toilette, d'habillement, de visite, où les jeunes femmes sont en plein délit de coquetterie. Tous les autres peintres ont énormément misé sur les tissus. Tissus qui sont représentés de manière très soyeuse, très nacrée, avec des effets de drapé extrêmement sophistiqués, alors que celle de Vermeer est d'une immense sobriété. La peinture est très dépouillée, hein, les accessoires sont réduits au minimum finalement. Hein. Il y a des leitmotivs. C'est ce tapis de table là, richement damassé, rouge. Ce sont ces petites fenêtres serties au plomb. Ça va être aussi la fameuse robe de brocart jaune brodée d'hermine. Voilà, on a comme ça quelques jalons qu'on retrouve d'une toile à l'autre et qui finalement créent une sorte de familiarité avec son univers. Ben voilà, il y a ça. Ben oui, on est chez Vermeer. On est témoin d'une scène qui, a priori, ne nous est peut-être pas destinée. On est sur le pas de la porte où on s'apprête à rentrer. On n'a pas envie de les déranger. On approche de cette célèbre, trop célèbre peut-être, laitière. Qu'est-ce qu'elle peut encore avoir à nous dire ? On est là aujourd'hui devant elle. Elle est tout entière penchée à son œuvre du jour, qui est de passer ce lait. Vermeer, moi, ce qui me saisit, c'est la présence des personnages. C'est l'intensité de leur présence. Ils sont là, ils sont totalement à leur affaire, à ce qu'ils font. Ils ne nous regardent pas. Ils ont une vie avant notre passage. Ils auront une vie après notre passage. Et ils sont complètement immergés dans leur activité du moment, avec une intensité, une espèce de vibration de ces personnages. Et en même temps, je les trouve d'une grande proximité. On n'est pas dans une peinture démonstrative, surplombante. Voilà, on a envie d'entrer dans la pièce, de s'asseoir avec eux, de poser notre main sur leur épaule. Il dégage, malgré tous les siècles qui nous séparent, une impression d'extrême proximité. Alors nous voici devant le dernier tableau de l'expédition. C'est cette merveilleuse dentelière. Elle est immergée dans ce labyrinthe de fils, de couleurs qu'elle est en train d'inventer sous ses doigts. Et comme pour la laitière, son monde est là et rien d'autre. Voilà, on a l'impression que tout peut s'écrouler, qu'un gouffre peut s'ouvrir devant ses pieds. Elle est d'une présence. On a toujours cette impression d'être en arrêt sur image. C'est à nous d'imaginer le film, d'imaginer la scène. Les tableaux ou la peinture en général m'intéressent dans l'émotion qu'elle peut me provoquer, dans ce qu'il a à me dire. Comment ce tableau qui a été peint il y a 4 siècles vient me toucher, me parler, me raconter des choses, peut-être me parler aussi de moi. Ces personnages, chacun d'entre eux porte un monde, porte des pensées, porte des rêves, porte des désirs. On aimerait bien se glisser un peu dans leurs pensées. Et je crois que finalement, Vermeer nous offre complètement cette possibilité d'entrer dans leur monde.
Merci Elsa. Blaise Ducos, vous voyez, effectivement, il n'y a pas que les visiteurs. Les écrivains trouvent encore le moyen de se raconter des histoires.
C'est un artiste d'artiste, hein, donc ça attire un peu comme un trou noir ou une araignée, je ne sais pas.
Mais justement, elle parlait de la laitière, donc qui a une véritable activité, qui est très concentrée. Elle parle d'intensité de la présence. Et moi, j'ai toujours le regard attiré vers le petit bout de carreau brisé. Est-ce que c'est important dans la peinture de Vermeer de guetter les signes, ces petits détails qui peut-être changent l'histoire ?
Oui, je pense. Alors, d'abord, une réflexion de simple bon sens, c'est que ces tableaux sont le résultat de centaines d'heures de travail. Donc, tout est pesé, tout est lentement élaboré, mûri, passé au tamis. Voilà, il y a vraiment cette idée. Donc, quand c'est là, ça veut dire quelque chose. Et en l'occurrence, le carreau brisé de la laitière, c'est une référence directe à un autre type de peinture, parce que c'est presque un tic qu'avaient d'autres peintres, les peintres de la ville de Leyde, donc Gérard Doux, Frans van Mieris et consorts, qui passaient leur temps à représenter des intérieurs avec des filles de cuisine en particulier. Gérard Doux était un grand spécialiste de ces servantes-là, dont la disponibilité était célèbre. Et Vermeer a réagi à cela. Et je pense qu'il était souverainement agacé par ce type de peinture qui fonctionne par empilement, par agrégat, une espèce de plongée dans le détail infini qui à la fin se perd elle-même. Et il a voulu simplifier, restructurer les choses et hiérarchiser. Voilà, le visage de la jeune femme a plus d'importance que le quignon de pain ou la botte de carotte. Alors que chez Gérard Doux, ça n'en a pas plus. Et donc le truc, si j'ose dire, du carreau cassé, c'est une façon de dire « je suis les doigts ». Mais au même moment, on dit « je suis anti les doigts, anti peinture ville de LED, parce que je fais autre chose ».
Voilà, c'est la laitière. Courez vite au Louvre pour la voir, si vous n'êtes pas allé la voir déjà à Amsterdam. Je rappelle que cette magnifique exposition, Vermeer et les maîtres de la peinture de genre, c'est à voir au Musée du Louvre jusqu'au 22 mai. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup d'embouteillages au début. Je pense qu'aujourd'hui, on peut réserver sur Internet, ce qui simplifie l'attente, effectivement. Et puis, il y a des nocturnes maintenant, Blaise Ducos, donc c'est plus facile.
Oui, alors ticketlouvre.fr, donc là, vous réservez votre créneau. Il y en a qui se libèrent régulièrement. Et puis, depuis une huitaine de jours, ont été mis en place des nocturnes, donc tous les samedis. Tous les samedis jusqu'au 20 mai inclus, vous avez la possibilité de rentrer jusqu'à 20h30, sortie je crois vers 21h45 du musée. Et on me dit de bonnes sources que c'est plutôt calme à ce moment-là.
Bonne nouvelle, parce qu'il y a eu beaucoup d'embouteillages au début. Je vous remercie Blaise Ducos d'être venu nous parler de ce magnifique Vermeer.
Merci à vous.
Et ses camarades de l'époque. Et je vous conseille, si vous n'y allez pas, le très beau catalogue coédité par Somogy et le Louvre Édition. Merci, au revoir. Eh bien, c'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Courez vite au musée ou alors sinon écoutez France Inter, puisque après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Et quant à nous, on se retrouvera dimanche prochain aux environs de 14h comme d'ordinaire. J'aurai le plaisir de recevoir ma camarade Pascal Clark qui démarre son boxon sur Internet. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.